Chapitre 8. Théodore Béchou, brigadier. Monsieur Gabillon décrocha le téléphone et demanda la préfecture de police. La Joconde escamotée, Isabelle disparue, la plaisanterie tournait maintenant au tragique. La communication fut établie et il obtint le brigadier Béchou. Les pourparlers furent longs. Béchou rechignait, trouvant la lutte trop inégale. Finalement, l'intervention brutale du préfet de police mit un terme à ses récriminations. Ce dernier fit comprendre à Béchou qu'un refus de coopération pourrait être considéré comme un manque de discipline. Finalement, le brigadier céda. Un argument de M. Gabillon le frappa et il consentit à venir le voir au musée. C'était le lundi 9 avril et le Louvre étant fermé, la conversation aurait lieu dans le calme et la discrétion. Vous comprenez, dit M. Gabillon. Ce n'est pas Lupin qui a emporté la Joconde et enlevé Mademoiselle Levallier. Et pourquoi pas? Ce damné personnage entortille tout un tas de bouts de ficelle qu'il vous tire sous le nez les uns après les autres. On se demande s'il se retrouve lui-même dans toutes ces manigances. Écoutez, monsieur Béchou, si Lupin se cache sous l'identité que vous supposez, comment expliquez-vous son étonnement à l'annonce du vol du tableau? Béchou eut l'air très surpris. Monsieur Gabillon se rendit compte que la police et le public n'étaient pas encore au courant du vol. Effectivement, depuis l'expédition à Rouen et la contre-expertise, la salle des peintures Renaissance restait close et le canular du 1er avril était déjà oublié de tous. On s'intéressait uniquement à l'enlèvement de la Mona Lisa en chair et en os, comme on s'amusait à appeler Isabelle. Monsieur Gabillon hésita longuement, puis s'expliqua. J'ai fait expertiser le tableau, pour me rassurer surtout. Or, les deux analyses, pour sommaires qu'elles aient été, ont montré immédiatement que nous étions en possession d'infos. Monsieur Daverny, qui était avec moi dans ces deux occasions, avait l'air encore plus affligé que moi. C'est d'ailleurs lui qui m'avait suggéré de le faire examiner. Encore un truc à lui, fit Béchou. Allez savoir ce qui se cachait derrière sa tête. Écoutez, Béchou, dit M. Gabillon qui commençait à perdre patience. Le policier, c'est vous, ce n'est pas moi. Si cet homme avait volé l'original, il aurait eu tout intérêt à ce que la vérité ne se sache que le plus tard possible. De plus, sa colère et sa surprise me semblent bien sincères. Vous savez, je ne suis pas né d'hier, moi non plus.
Est-ce que je sais ? Bougonna Béchou.
Maintenant, il y a autre chose. Je crains que ce Raoul ait effectivement enlevé Isabelle. Je sais l'intérêt qu'il lui porte, et je sais aussi qu'il n'a pas froid aux yeux.
Il a disparu de la circulation depuis jeudi, lâcha Béchou. Non que ça me fasse quelque chose, mais j'ai entendu causer de ça à la préfecture. On ne l'a pas revu dans aucun des trois appartements qu'on lui connaît à Paris. Je l'ai cherché, moi aussi, et sans résultat. Mais il y a aussi un fait nouveau.
La petite annonce.
Vous savez donc ? Dit M. Gabillon qui comprenait bien que la police n'ignorait pas ce qu'il savait lui-même.
Évidemment, on m'a montré ça tout à l'heure. Lisa contre Lisa. C'est le seul argument qui m'ait décidé à venir ici d'ailleurs, je l'avoue. Il n'a pas proposé les deux Lisa, comme on aurait pu s'y attendre, mais l'une contre l'autre. La question est de savoir laquelle des deux est en sa possession.
Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas grand doute.
Alors, qui aurait le tableau ? Un employé à vous ? Isabelle Levallier ?
Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais vos services à vous ont refait l'enquête qui avait été menée en 1911 lors du vol précédent. On a comparé toutes les empreintes de doigts sur les murs avec celles des employés. À part les miennes et celles de Mademoiselle Levallier, qui étaient plus fraîches que les autres, on n'a rien trouvé.
Alors c'est soit vous, soit Mademoiselle Isabelle.
Peut-être. La raison de nos empreintes s'explique aisément. Nous avons décroché le tableau plusieurs fois ces derniers jours, en particulier pour l'emmener aux experts. Et puis, si c'était Isabelle, quoi de plus facile pour elle que de proposer à Lupin sa liberté en échange de la Joconde? Maintenant, si c'est moi, eh bien, je m'assierai sur le banc des accusés, et advienne que pourra.
Béchou comprenait la nature absurde de toute cette situation. Dans sa carrière, il avait vu des escrocs de haut vol. Il savait que Lupin avait été chef de la sûreté. Mais M. Gabillon n'avait vraiment pas la tête d'un grand aventurier et il ne faisait visiblement aucun effort pour cacher son jeu ou masquer ses pensées.
« D'accord, je marche, » dit-il enfin. Monsieur Gabillon le remercia d'une chaleureuse poignée de main. Il contempla cet homme encore jeune, d'apparence un peu chétive. Les longs bras semblaient vigoureux et le regard ne manquait pas d'intelligence. Il émanait du personnage la volonté farouche de servir ses supérieurs et son peuple. Sans doute aspirait-il corps et âme à voir le triomphe du bien sur le mal et de la justice sur le crime. Béchoux se rendit à la buvette de la préfecture où il tenait son quartier général. On lui avait accordé le concours de 6 inspecteurs des plus tenaces et des plus expérimentés. Il décida de se replier dans une pièce dérobée de l'Écrevisse, restaurant très fréquenté par l'élite de la préfecture. L'état-major siégea donc pendant près de 3 heures. On passa en revue tous les articles de journaux parus sur les 2 affaires depuis 2 semaines. On étudia à fond toutes les informations ramassées à droite et à gauche. On ne dédaigna aucune spéculation. 5 personnes étaient au courant du vol, Daverny étant le seul que l'on pût suspecter. Les autres étaient au-dessus de tout soupçon. Malgré ses antécédents et sa réputation, l'aventurier semblait en dehors du coup. Il se pouvait aussi qu'on l'ait roulé lui-même dans des circonstances encore inconnues. Aussi improbable que fût cette hypothèse, il ne fallait cependant pas l'écarter d'emblée. Lupin avait parfois échoué dans le passé. Plus d'une fois, le fameux artiste avait été berné par un adversaire de première force avant de le terrasser. Côté Joconde, aucune piste, à part la petite annonce « Lisa contre Lisa ». Béchoux fit remarquer à ses hommes que la phrase pouvait s'entendre dans les 2 sens. On pouvait proposer la libération de la guide du musée contre le tableau. Ou bien, il s'agissait de restituer le chef-d'œuvre contre la libération d'Isabelle. Les jours suivants donneraient sans doute la clé de l'énigme. Côté Isabelle, on avait noté le passage d'une voiture verte, sans doute celle de Raoul Daverny, longeant la Seine, puis du côté de Versailles et non loin d'Orléans. Un berger avait déclaré qu'il avait vu une femme qui essayait de sauter d'une voiture, aussi vrai qu'il y avait 4 pattes à un mouton. Sans doute le véhicule avait-il continué vers la Riviera. Cependant, on l'avait retrouvé dans un ravin dans les Vosges, vide de ses passagers. Sans doute Lupin avait-il préféré s'en dessaisir par crainte des poursuites. Béchoux lut les rapports qui avaient trait au sieur Raoul Daverny. Il avait été mêlé de près ou de loin à des affaires de fraude, à des paris truqués, à des pattes de chevaux cassées 2 heures avant la course. Il avait bien vécu aux Indes et en Afrique, comme il le disait lui-même. Puis il était revenu avec une fortune considérable. Rien cependant ne permettait d'affirmer l'identité de Raoul avec Lupin. Il n'y avait pas non plus de preuves suffisantes pour établir un mandat d'amener. D'ailleurs, les inspecteurs faisaient remarquer qu'on était toujours dans l'embarras dans des cas pareils. On ne pouvait pas facilement établir un mandat au nom de quelqu'un qui n'existait pas. Lupin n'existant pas, et Daverny s'étant volatilisé, il n'y avait pas grand-chose à espérer. De plus, même si Daverny avait l'audace de mettre le nez au Café des Princes cet après-midi, il n'y aurait aucun prétexte pour l'arrêter, ni même pour l'interroger. En un mot, c'était l'impasse. Mais maintenant, l'animosité de Théodore Béchoux contre Lupin émergeait de sa conscience professionnelle flétrie. Ce rire goguenard et cette moquerie sinistre, tout cela l'agaçait. Et puis, son amour-propre avait été si souvent piqué au vif. Et enfin, Lupin. Lupin avec tout ce que cela signifiait. Il pensait à ses 30 années de duperie et de mépris du bien des autres. Tout cela battait plein son dans le cœur et sur les tempes du brigadier. Une fois de plus, la guerre était déclarée. Si les batailles du passé ne l'avaient pas favorisé, lui, Béchoux, cette fois, il allait prendre sa revanche. Il punirait bientôt ce détestable personnage dont il connaissait tous les artifices et qu'il ne craignait plus, désormais. 5 heures à la terrasse du Café des Princes. Un monsieur à la barbe grisonnante, vêtu comme un ingénieur en mécanique automobile, sirotait une bière brune en lisant le journal du soir. Du coin de l'œil, il observait Daverny, qui devisait gaiement avec Blaisy. Le vaurien n'avait même pas jugé bon de se grimer et de se déguiser. C'était bien Daverny qui pérorait et riait insouciamment. Béchou voulait lui sauter à la gorge et l'étrangler de ses 10 doigts. Il se contenait cependant, car il espérait pouvoir le filer et arriver à Isabelle. Raoul dut sentir ce regard pesant sur lui, car il consulta prestement sa montre, dit quelques mots à Blaisy et déguerpit comme un lapin. Béchou ramassa 2 inspecteurs qu'il avait mis en faction au coin de la rue et se mit en chasse. Lupin semblait d'ailleurs ne pas tenter de leur échapper et se contentait de marcher à grandes enjambées et sans se retourner. Béchou, qui avait potassé son guide de filature professionnelle, savait bien qu'un homme suivi qui ne se retourne pas est un homme qui le sait et ne s'inquiète pas. Un homme qui fait semblant de n'avoir rien à craindre n'a rien à craindre. Effectivement, Lupin entra dans une boulangerie et demanda quelques gâteaux qu'il fit mettre dans une petite boîte de carton enrubanné. Béchou le regardait par la vitrine du magasin. C'était bien lui. C'était bien sa taille fine et ses épaules larges. Cet air jeune et malicieux. Il regarda à gauche et à droite, fit signe à ses agents de se tenir sur leur garde et tourna à nouveau les yeux sur la boulangerie. Il sursauta. Lupin avait disparu. Béchou s'élança. « Où est-il » cria-t-il à la vendeuse choquée de cette interruption. « Mais qui ça ?»« Mais le type avec les gâteaux !»« Ah, monsieur Daverny ? Eh bien, il est sorti par la porte de côté. Il ne doit pas être bien loin. » Béchou et ses hommes foncèrent dans cette direction. Rien. Envolé le Lupin, disparut le Raoul. S'il n'avait pas eu le sentiment profond que le client s'était intégralement volatilisé, il l'aurait aperçu qui se blottissait sous la porte cochère de l'immeuble voisin. Pendant que les agents de la sûreté se précipitaient à sa poursuite, le fugitif rebroussait chemin à petits pas tranquilles. Mais, dans ces moments-là, la colère faisait perdre la tête aux limiers les plus perspicaces. En fin de compte, Béchou et ses pieds nickelés atterrirent avec fracas dans la buvette de la préfecture et n'en bougèrent plus jusqu'à la nuit. Raoul rentra par le métro. « La situation se corse, » pensait-il. « Il ne me lâchera donc pas, cet abruti ? Il faut opérer le fameux repli stratégique. C'est bien dommage, je me sentais si bien dans ma peau de Lupin. » Il donna 3 coups de téléphone assez brefs, où il dicta des instructions codées. Ensuite, il rédigea un télégramme dont le libellé était le suivant. « T.R. espace .FF. L, espace, P, point, L, point, point, R, espace, point, 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 S, T, 22, 4, 3, 30. Son papier à la main, il téléphona au service des postes et fit envoyer, à des noms et des adresses divers, 3 télégrammes portant cette curieuse inscription. Comme l'opératrice s'en étonnait, il rit et déclara que c'était un jeu de chasse au trésor, qu'il organisait pour une bande d'amis. Il fourra négligemment le papier dans la poche de son veston et se dirigea vers un secrétaire dans le coin de la pièce. Il en tira quelques dossiers qu'il posa sur la table et se mit au travail. De temps en temps, il jetait une boule de papier qui allait rallumer un moment le feu dans la cheminée. Il travailla ainsi jusqu'à 2 heures du matin. « Voilà, mon cher Raoul, encore 2 ans de ta vie qui s'achèvent ici. » Il va falloir recommencer tout à zéro. Eh bien, recommençons. 1 heure plus tard, le local ayant été vidé de toute trace de présence humaine, il le quittait définitivement pour sa nouvelle tanière au 41 de la rue de Vaugirard. Un certain Jacques Froment avait loué les 4 appartements du premier et du second étage.